Quel a été votre professeur préféré à l'école, à l'université, au primaire ou au lycée? Qu'est-ce qui caractérise un bon professeur? Sur Internet, on trouve toutes sortes de principes d'enseignement. J'ai entendu des gens décrire l'enseignement et la capacité d'enseigner, la capacité que vous devriez être en mesure de développer. Ce sont tous d'excellents principes. Beaucoup d'entre eux sont des principes reconnus. Jésus-Christ était exceptionnel. Sans doute, comme nous le dirions, le meilleur de tous les enseignants et assurément l'enseignant parfait. Il a donné un merveilleux exemple à chacun de nous. Il y a toutes sortes de principes et d'instructions. Et je vais donc donner une sorte d'aperçu. Nous lisons que Dieu déclare la fin depuis le commencement. Dans Apocalypse 20, au verset 6 et aussi au verset 5, nous voyons à l'avance que nous serons des rois et des sacrificateurs dans la famille de Dieu. Des rois et des sacrificateurs. Un sacrificateur est un enseignant, quelqu'un qui enseigne et encourage. Nous lisons ici dans Lévitique au 10e chapitre, Lévitique 10, c'est l'histoire, vous vous en souvenez, où les deux fils d'Aaron ont commis une horrible erreur. Ils ont apporté un feu étranger qui n'était pas sanctifié, il était impur et souillé, et ils ont perdu la vie à cause de cela. Voici ce que nous lisons au verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Nous ne nous présentons pas n'importe comment devant Dieu. En voici un exemple classique. Ils auraient dû le savoir. Ils avaient appris une série de rituels pour ancrer cela dans leur esprit. Mais ils ont commis une erreur. Continuons ici au verset 10. Eh bien, reprenons plutôt au verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Peut-être que c'était le problème, nous ne le savons pas, mais peut-être que c'était ça. De peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. C'est le verset 9. Voici maintenant le verset 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Quoi qu'il en soit, c'est très important. Un sacrificateur, un enseignant, devait faire la distinction entre le pur et l'impur, entre le saint et le profane. Il devait l'expliquer clairement au peuple de Dieu. Dans Esdras, nous voyons un autre bon exemple. Bien sûr, Moïse était un excellent enseignant, et il y a beaucoup de bons exemples ici. Mais dans Esdras, nous savons avant même d'y arriver ce qui est dit ici à propos d'Esdras, le sacrificateur. Esdras, chapitre 7. Esdras arriva à Jérusalem, verset 8, au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Dans ma marge, je descends ici au verset 10, il est dit que cela signifie étudier, chercher, étudier la loi de l'Éternel, la mettre en pratique et enseigner les lois et les ordonnances en Israël. Ce faisant, leur enseigner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est saint et bon et ce qui est impur et souillé. Plus tard, dans le chapitre 8 de Néhémie, nous lisons plus de détails sur cet enseignement. Il est dit dans Néhémie 8 au verset 7 que Josué, banni, Et tous les autres Lévites et sacrificateurs aidaient le peuple à comprendre la loi, et le peuple se tenait à sa place. Ils lisaient donc distinctement dans le livre, dans la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens. Ils aidaient les gens à comprendre ce qui était lu. C'est cela l'enseignement, aider une personne à comprendre un sujet particulier. Frères, dans le monde de demain, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aider les gens à comprendre. Nous lirons et expliquerons clairement la vérité sur la loi de Dieu, avec des détails spécifiques. Nous les aiderons à comprendre cette loi et sa signification, pour qu'ils saisissent le sens de la lecture et de notre enseignement. Vous vous demanderez peut-être, comment puis-je faire cela? Comment puis-je donner du sens et de la clarté aux lois de Dieu? Eh bien, c'est vraiment une question importante. Certains d'entre nous peuvent ressentir une certaine appréhension ou se dire, je ne sais pas si je peux enseigner quoi que ce soit. Que puis-je faire? Je sais à peine aligner deux mots. C'est ce que certains d'entre nous peuvent penser. Nous nous déprécions et nous nous rendons compte que nous sommes parfois un peu déficients. Comment pourrons-nous être à la hauteur de la fonction dans laquelle Dieu vous placera et dans laquelle il nous placera tous dans le monde de demain? Comment allez-vous pouvoir aider les gens? Comment allez-vous pouvoir donner un sens aux lois de Dieu? Comment allez-vous aider les gens à comprendre? De nouvelles personnes posent des questions. Qu'est-ce que cela signifie de faire une telle chose, faire telle ou telle chose? Et ils vous demandent peut-être, que signifie chercher Dieu? Que diriez-vous à une nouvelle personne à propos de la recherche de Dieu? Comment cherche-t-on Dieu? Comment savez-vous que Dieu vous entend? Que leur diriez-vous? Vous voyez, mes frères, il y a beaucoup de choses que vous savez, que Dieu vous a révélées, que Dieu vous a aidé à comprendre. Vous en savez plus que vous ne le pensez, et vous allez pouvoir aider les gens. Juste en écoutant parfois, juste en écoutant quelqu'un, vous êtes en mesure de les aider. Durant le millénium, vous serez un enseignant et un roi, régnant avec Jésus-Christ, sous son autorité. Nous serons en mesure d'encourager et d'aider tous ces gens. Aujourd'hui, j'aimerais vous décrire quelques caractéristiques d'un bon enseignant. Le titre de ce sermon est « Nous sommes tous en formation pour enseigner ». En formation pour enseigner. Nous verrons que vous êtes excellent dans ce processus de formation à l'enseignement et que vous progressez bien dans cette voie. Certains sont dans l'Église depuis longtemps, d'autres sont tout nouveaux. J'ai parlé à une nouvelle personne, à Fernandina Beach. Je dois bien le prononcer car j'ai tendance à dire Ferdinand. C'est ce que je veux dire. C'est le site de fête miracle que Dieu a ouvert pour les frères qui allaient à Palmetto. Les vents sont venus, ils ont soufflé, ils ont rendu Palmetto inutilisable et nous avons été transférés à une belle location, au Marriott Courtyard. Quelqu'un devait souffrir et nous avons souffert agréablement au Marriott. Des installations magnifiques, des frères merveilleux, des chants et des réjouissances, comme vous en connaissez ici aujourd'hui. C'est tellement inspirant. Pensez un instant au défi que vous et moi, nous tous, allons devoir relever dans le monde de demain. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler au début de la fête. Dans le deuxième chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 2, nous lisons au verset 11, « Entre dans les cavernes des rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé. » Nous savons que la terre tremble parfois, mais à la fin des temps, Dieu va ébranler la terre et les cieux. Les gens vont être déconcertés, ils seront sous le choc et vous savez, effrayé, presque fou, allié. Le cœur de certains hommes sera défaillant. Nous le savons, ce sera une période terrible et terrifiante pour ceux qui ne seront pas au lieu de sécurité. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé contre tous les cèdres du Liban, haut et élevé, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Cela changera considérablement la donne, c'est certain. Verset 19, « On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Nous lisons dans Apocalypse 6, à peu près la même chose, Apocalypse 6, à partir du verset 15. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » C'est effrayant quand on pense à ce qui va se passer. J'ai vécu un petit tremblement de terre, 7 points quelque chose, je crois, en Californie du Sud. Certains d'entre nous s'en souviennent. Les tuiles du toit du gymnase de basket sont tombées. Elles étaient en amiante, très lourdes, et elles se sont enfoncées dans le plancher de bois lorsqu'elles ont frappé. Heureusement, personne ne se trouvait dans le gymnase à ce moment-là. Le choc s'est produit vers 5h ou 5h30 le matin. J'étais dans le dortoir, je m'étais levé et j'étais à la salle de bain. Je ne vous dirai pas précisément où j'étais, mais j'ai survécu à ce tremblement de terre. Quoi qu'il en soit, c'était tellement déconcertant. Nous tremblions tous. La terre s'était soulevée d'environ 3 mètres, puis était retombée. Cela a endommagé la plomberie dans la vallée de San Fernando. Des tronçons de l'autoroute s'étaient effondrés, devenant de longs gouffres profonds. Un officier de la patrouille routière de Californie est plongé dans le cratère et est mort à la suite de ce tremblement de terre. Il ne s'est pas rendu compte assez vite que la route était détruite. Mes parents vivaient dans la vallée de San Fernando. Ils avaient une bibliothèque à la tête de leur lit, vous savez, une étagère. Et tout cela s'est effondré. La vaisselle est sortie du placard et, durant longtemps, au loin, dans la vallée de San Fernando, sur les collines, on entendait les chiens hurler. Juste un hurlement sinistre au rythme des mouvements du sol. Pourtant, ce n'était qu'un petit tremblement de terre. Pouvez-vous imaginer ce que nous disons ici? Ce sera une période de grande incertitude. Et pourtant, les gens sentiront qu'il se passe quelque chose, et beaucoup le sauront. Beaucoup sauront qu'il s'agit de Jésus-Christ, mais certains seront encore trompés. Satan a exercé une puissante influence sur l'humanité. Aujourd'hui, elle est presque à son zénith, alors que le monde entier est complètement dans l'obscurité. La fausse religion, toutes sortes de choses sont introduites. Les gens sont confus dans leurs pensées. C'est la confusion concernant qui ils sont et ce qu'ils sont. Et tout cela est le résultat d'un système d'éducation qui s'est détraqué, fondé sur des philosophies païennes et un raisonnement scientifique humain qui n'aboutit jamais à une juste conclusion sur les choses. Si vous étudiez vraiment la méthode scientifique, vous verrez qu'il s'agit d'une forme de raisonnement circulaire. Beaucoup de choses ont été inventées, bien sûr, mais en fin de compte, les gens sont toujours à la recherche de la vérité et ils ne peuvent jamais la trouver. En fait, ils nient l'existence du monde spirituel. Certains fondent leurs croyances sur des faits, mais en réalité, elles reposent sur une hypothèse. Une grande partie de la théorie de l'évolution, bien sûr, n'est que spéculation, sans tenir compte de l'évidence. Même Darwin a remis en question sa propre théorie lorsqu'il a découvert le globe oculaire. Vous vous rendez compte? Il aurait dû s'arrêter là. Il aurait dû dire « D'accord, c'est fini, c'est une philosophie folle, folle, c'est stupide. » Mais non, il a continué. Et vous savez ce qu'ils disent maintenant? Parce que Darwin a écrit tant de volumes sur sa théorie, parce qu'il a produit tellement de matériel, ils ont pensé « À cause de tout cela, c'est forcément vrai. » C'est la preuve que c'est forcément vrai. Il y a tellement de volumes, de spéculations, et de si, et de donner assez de temps, et de sélection naturelle, eh bien, ça doit être vrai. C'était dans le Reader's Digest. Une section était intitulée « Comment savoir si vous avez un quotient intellectuel élevé ?» Inutile de dire que j'ai fait le test. J'ai découvert que mon quotient intellectuel était de zéro. L'une des questions était la suivante. Vrai ou faux? L'évolution est vraie? Et j'ai répondu faux avec un grand X. Ils ont dit, vous avez perdu. Vous avez échoué. La raison pour laquelle j'ai échoué, selon eux, puisqu'un grand nombre de scientifiques disent que l'évolution est vraie, ils pensent que c'est forcément vrai. Nous savons que Satan a séduit le monde entier, et je ne me soucie pas de savoir si le monde entier y croit. Nous savons que c'est faux, évidemment. Mais la raison humaine est ainsi faite, il faut donc se méfier de la raison humaine. Elle semble bonne, elle peut sembler juste, mais son résultat, comme le dit Proverbe 14:12, c'est la mort. Frères, nous sommes ceux qui, dans l'Église de Dieu, veulent être de bons enseignants. Nous voulons accomplir cette partie, cette prophétie. Nous sommes en formation pour être d'excellents enseignants, pour rendre les choses claires, pour être capables d'aider les gens à discerner entre ce qui est mal et impur et ce qui est bien et pur, ce qui est tout simplement délicieux et édifiant. Que pouvons-nous donc faire? Que pouvons-nous faire pour nous préparer à devenir de bons enseignants? Vous vous souviendrez de certains de ces principes, peut-être à partir d'autres sermons. Ce ne sont que des principes de base, mais ils sont très utiles. J'espère que vous les noterez et que vous y penserez. Tout d'abord, Dieu doit enlever les écailles de la tromperie des yeux des personnes aveuglées dans le monde. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 25, Ésaïe 25. Après tout, n'est-ce pas ce qui est arrivé à vous et à moi, miraculeusement? Nous tous, nous étions simplement heureux, comme nous étions, aussi ignorants qu'il est possible de l'être. Mes parents et moi étions absorbés par le protestantisme jusqu'en 1958 environ. Lorsque mon père a entendu M. Armstrong en provenance de New York. Ici, Herbert Armstrong, vous apportant la bonne nouvelle du monde de demain. Ma grand-mère m'a dit, « Don, tu dois écouter ce cinglé de Californie. » C'était une adepte de religion et elle aimait écouter. Je trouvais cela amusant. Elle demandait parfois un linge oint et Dieu la guérissait. Croyez-le ou non. Elle a donc été impressionnée jusqu'à un certain point, mais n'est jamais venue à l'église. C'est étrange, très étrange. Mais elle a encouragé mon père, et mon père a commencé à s'intéresser. Lorsque nous avons quitté la Caroline du Nord pour nous installer à Bâton Rouge, en Louisiane, nous avons commencé à fréquenter une église protestante. J'ai failli dire le nom, mais quoi qu'il en soit, c'était des gens très sincères. Je me souviens qu'après un certain temps, mon père a commencé à enseigner une classe biblique pour adultes à partir de leur littérature. Il a posé un jour la question suivante. Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Un homme, au fond de la salle, a dit, ne me dites pas que je ne suis pas chrétien. Je vais me lever et vous mettre mon poing sur le nez. Le sabbat posait aussi problème. Ils nous ont donc invités à trouver un terrain meilleur ailleurs, donc de quitter. Nous avons donc cessé de fréquenter cet endroit. Les pasteurs sont venus et ont essayé de nous parler. Mon père avait juste assez de connaissances pour pouvoir répondre à leurs questions. Ils ont dit, vous savez, M. Hall, ce que vous dites est vrai. C'est dans la Bible. Mais nous n'avons pas étudié cela au séminaire. Et si nous enseignons cette vérité, nous perdrons notre emploi. J'avais 12 ans à l'époque et je me suis dit, wow, comment peuvent-ils faire passer leur travail avant la vérité? C'était comme ça. Et cela m'a vraiment ouvert les yeux. Dès lors, comme vous, mes frères, nous avons commencé à comprendre de plus en plus. Mais la véritable pièce de résistance, la véritable percée, c'est lorsque nous avons commencé à observer le sabbat. Cela a vraiment changé la donne. C'est alors que vous commencez à vraiment respecter les commandements de Dieu. Dieu dit dans le psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une bonne compréhension, selon certaines versions. » Alors, frère, vous êtes ici, en train de faire ce qu'il faut, et vous en savez plus sur la façon d'expliquer les choses que vous ne le pensez. Dieu vous inspirera, Dieu vous aidera. Une chose que vous réalisez d'emblée, la première, c'est que Dieu a enlevé les écailles de vos yeux. Vous comprenez, vous avez de la perspicacité, vous savez. La fonction d'un sacrificateur est d'abord de savoir. Nous devons demander à Dieu de nous aider à en savoir plus, à avoir davantage de connaissances et de compréhension. Alors, demandez à Dieu. Demandez-le à Dieu. Et Dieu vous aidera. Dieu vous fera réaliser que vous savez. Demandez aussi à Dieu de vous aider à vous soutenir dans ces choses. J'espère que certains points que je vous donne ici vont vous être très utiles. Rappelez-vous, Dieu a ouvert vos yeux. Il a enlevé vos écailles. Bien avant le reste du monde. Êtes-vous prêt? Suis-je prêt? Où commencer à enseigner? Premièrement, vous souciez-vous des gens? Selon un vieux dicton, si vous ne vous intéressez pas à quelqu'un, il ne s'intéressera pas à ce que vous savez. Les gens préfèrent savoir que vous vous souciez d'eux avant de s'intéresser à ce que vous enseignez ou à ce que vous savez. C'est tout à fait vrai. Dans le monde de demain, vous allez prendre le temps qu'il faudra. Vous allez prendre le temps d'apprendre à connaître les gens. Ils seront totalement perturbés, sortant de misères extrêmes, et vous serez là pour les calmer. Vous direz, « Dites-moi, que se passe-t-il dans votre vie? » Ils réagiront peut-être comme les disciples l'ont fait lorsque le Christ, après sa résurrection, marchait avec quelques disciples sur la route d'Emmaüs. Je paraphrase sa réponse. « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous semblez bouleversé. » Et ils ont dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? Où étais-tu? » C'est ce qu'ils ont demandé au Christ. « Où étais-tu? » Plus tard, le Christ leur a expliqué et révélé qu'il était le Christ. Il était déjà ressuscité. Ils étaient sous le choc. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas s'imaginer. Mais le Christ les a écoutés. C'est ce que je dis avant de commencer à se révéler. C'est alors qu'ils ont découvert qui il était. Vous souciez-vous des gens? Êtes-vous prêt à prendre le temps d'écouter leurs problèmes? Souvent, quand vous écoutez, ils répondent à leurs propres questions. Parfois, vous êtes là assis, écoutez une nouvelle personne et vous dites, je comprends. Puis vous dites, je crois que vous avez trouvé la réponse. Et ils diront, je crois que je dois prier. Eh bien, c'est vrai, vous avez la réponse. Il faut prier davantage. En fait, vous n'avez rien dit. Certaines personnes s'éclairciront la gorge et diront, « Wow, c'est intéressant. Oui, je suis d'accord avec vous. » Elles n'ont pas dit un mot. Elles ont tout simplement écouté. Elles ont été patientes. Et parce que vous avez été patient, cette personne a pu arriver à la bonne conclusion, simplement en écoutant. Vous souciez-vous des autres? Vous souciez-vous de l'Église, vous souciez-vous du peuple de Dieu dans l'Église, vous souciez-vous de tout le peuple de Dieu et même de ceux qui ne sont pas dans l'Église. Priez Priez-vous pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Nous pouvons demander à Dieu de nous donner l'amour des gens, de nous donner l'amour de servir. Il y a beaucoup de gens qui aident ici M. Slan à servir. C'est une armée, c'est une équipe. C'est à Dieu que revient le mérite. C'est Dieu qui nous donne toutes les bonnes choses. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Mais nous avons l'honneur, frère, de faire partie de l'équipe et de nous servir les uns les autres. Quelle joie! Vous pouvez donc demander à Dieu d'aimer les frères, et Dieu vous le donnera. Mais il faut être vraiment sincère. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Père, donne-moi simplement l'amour des frères ». Non, il faut vraiment aller jusqu'au bout et demander à Dieu avec ferveur « À l'aide, aide-moi à aimer ton peuple en dépit de ce qu'ils sont ». Bien sûr, ils vont prier pour la même chose. Aide-moi à aimer un tel ou un tel, malgré ses travers. Nous avons tous nos particularités. Nous faisons tous des choses qui risquent d'énerver l'autre si nous restons ensemble assez longtemps. Parfois, c'est le cas. Mais d'un autre côté, lorsque vous avez l'amour de Dieu, ces particularités semblent se dissiper et disparaître. Un mari commence à comprendre que sa femme n'est pas parfaite. Et c'est une véritable révélation. Vous savez, cela ne devrait pas être une surprise, mais ça l'est. Elle dit la même chose. Il n'est pas parfait. Alors comment bien s'entendre? Il faut l'amour de Dieu pour toujours voir ce qui est bon, pour toujours encourager le bien. Une vieille chanson dit « Accentuez le positif, éliminez le négatif et ne touchez pas à l'entre-deux. » Vous savez, nous voulons prier pour cet amour de Dieu, pour bien le voir. C'est frappant de lire la prière du Christ avant sa mort, dans Jean 17, verset 6, où il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Il parle d'eux positivement. Jésus-Christ n'a pas évoqué leurs problèmes. Il se plaignait toujours. Juste avant sa mort, ses disciples se disputaient et se chamaillaient même pour savoir qui serait le plus grand. Or, Jésus n'a rien dit de tout cela. Il s'est concentré sur le positif. Il a dit au Père l'exacte vérité. Ils ont gardé tout ce que le Christ leur avait donné. Et ils allaient devoir le garder bien davantage après avoir reçu l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas là une approche positive? Lorsque vous aimez le peuple de Dieu, vous accentuez le positif, vous les aimez, vous voulez les encourager, vous n'êtes pas contre eux. C'est comme un père et un enfant a besoin d'être guidé, il a besoin d'être guidé, il saute partout. J'en parlerai plus tard, mais de toute façon, il est un peu comme un lapin Energizer. On ne peut pas l'arrêter, les enfants bougent et s'agitent sans cesse. On aimerait bien avoir un gramme de leur énergie, mais vous savez, ce qui est vraiment passionnant, c'est que vous êtes patient. Vous mettez l'accent sur les aspects positifs. Vous les aimez, même si c'est de l'envers du lait, ou font quelque chose que vous n'aimez pas. Néanmoins, vous travaillez avec eux, vous les aidez, vous les encouragez. Avant d'enseigner aux gens, nous devons donc nous préoccuper d'eux. Nous devons être sûrs que nous nous soucions d'eux. Nous devons aller à Dieu et lui demander de nous donner sa sorte d'attention particulière. Car Dieu a tant aimé le monde entier, comme nous l'avons entendu dans la sermonette. Et Dieu nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis, alors que le Christ souffrait, qu'il était battu, nous aurions été là à dire « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Par ignorance, bien sûr, néanmoins, alors que nous étions encore ennemis, alors que nous vivions encore dans nos péchés, vous voyez, en nous essuyant les pieds sur le sabbat, sur les lois de Dieu, Christ est mort pour nous, pour que nous puissions avoir une part, pour que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions faire partie de sa famille, la famille de Dieu, sous Jésus-Christ, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Comment enseigner? Comment allez-vous trouver les faits et toutes les informations que vous devez connaître pour avoir la bonne approche? Comment cela va-t-il se passer? Rapportez-vous avec moi à Exode, chapitre 31. Exode, chapitre 31. Voyons le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaleël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » En poursuivant la lecture, nous voyons qu'ils enseignaient ensuite aux autres. Ce n'était pas seulement pour eux. Ils devaient partager cette connaissance. Ce que je veux dire ici, c'est que Dieu mettra dans votre cœur et dans votre esprit la sagesse nécessaire. Un grand changement. J'aime bien ça. Pas besoin d'aller à aucune école. Si vous manquez de quelque chose, vous n'aurez pas besoin d'obtenir un doctorat ou quoi que ce soit d'autre. Quand Dieu donne la sagesse, c'est un miracle. Dans l'éducation des enfants, il y a des choses dont on se rend compte. Wow! J'ignorais que je savais ça. Et on le transmet et ça marche. Eh bien, c'est Dieu qui l'a mis là. Comment le savons-nous? Tout d'abord, permettez-moi de vous montrer ici Exode 35. Exode 35. Verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaleël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Puis le verset 34. « Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. » Non seulement Dieu les a dotés des compétences nécessaires pour accomplir toutes ces choses, mais il leur a donné les compétences nécessaires pour les partager et les enseigner. Quand vous en aurez besoin, Dieu mettra les bonnes choses en vous par son pouvoir miraculeux d'intervenir. Dieu vous donnera ce qu'il faut. Il le fera. Bien sûr, nous serons alors concentrés sur le côté spirituel. Nous allons enseigner aux gens comment garder le mode de vie de Dieu, comment se convertir en profondeur, comment avoir la foi, comment faire preuve de patience, de gentillesse, de douceur, tous les fruits de l'Esprit de Dieu. Comment savons-nous que Dieu peut nous donner cette connaissance et cette compréhension? Eh bien, remarquez ici dans Matthieu, le chapitre 16. Ce sont des points intéressants qui illustrent ce que Dieu fait et peut faire. Ce que M. Weston a dit dans son sermon d'introduction. Je trouve très intéressante la façon dont Dieu appelle. Remarquez ici, frères, dans Matthieu 16. Le Christ a demandé aux disciples, qui suis-je, au dire des hommes? Matthieu 16, verset 13, puis au verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Au verset 16, Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Arrêtez-vous et réfléchissez à cela. C'est Dieu le Père qui a révélé cela à Pierre, miraculeusement. Cela a pénétré dans son esprit par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu qui travaillait avec lui. Je vous pose donc la question, Comment auriez-vous pu comprendre la vérité si vous n'aviez jamais entendu auparavant? Comment l'auriez-vous reconnue si on ne vous l'avait jamais enseignée? C'est un miracle. Et nous savons que nul ne peut venir au Christ si le Père ne l'attire. M. Weston l'a mentionné. C'est un miracle. C'est vraiment fascinant à voir. Les appelés sont d'accord avec vous lorsque vous leur parlez. Ils prennent la revue, ils écoutent l'émission, ils commencent le cours de Bible et leurs yeux s'ouvrent, ils sont brillants. Ils sont tellement enthousiastes. Ils se rendent compte qu'ils sont sur la bonne voie. C'est Dieu qui leur a révélé. Comment pourrait-il reconnaître la vérité? Inversement, si vous parlez à quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts, cela lui passe par-dessus la tête. « Oh oui, je sais que c'est dans la Bible, diront-ils. J'ai dit à une personne qui était nouvelle, je suis content que vous soyez là. Observez-vous le sabbat? » Il m'a répondu, « Eh bien, je le fais parfois. » J'ai dit, « Serez-vous ici le prochain sabbat pour le suivi de la conférence? » Il a dit, « Non, je suis diacre dans une autre congrégation, dans mon église. Que penserait-il de moi? De plus, le Seigneur me pardonne chaque fois que je ne respecte pas le sabbat. » Cela lui passait carrément par-dessus la tête, entré dans une oreille et sorti par l'autre. C'était aussi mon cas, comme nous tous, avant que Dieu nous ouvre l'esprit. Mais pour certaines personnes, cela pénètre. Quand ça se produit, c'est un miracle. Les yeux s'ouvrent, ils savent. C'est comme si Dieu leur avait parlé. Une famille m'a dit, « Nous avons entendu la voix du Christ lorsque nous avons entendu M. Meredith. » M. Meredith prêchait l'Évangile du royaume de Dieu à la télévision. Et quand ils l'ont entendu, cela a résonné en eux. Voici un autre principe. Vous devez connaître le sujet et la source de toutes ces connaissances. Il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'Esdras a fait? Il s'est préparé. Il s'est préparé. Et ce mot, comme vous le savez, a trait à l'étude réelle, à la réflexion. J'aime aussi penser à Josué quand je réfléchis à cela. Parce que Dieu a donné un ordre à Josué à ce sujet. Remarquez ce qu'il lui a dit. Je vais vous montrer la valeur de cette directive. Si vous faites ces choses, vous verrez le résultat. Beaucoup d'entre vous le font déjà. Mais je vous dis de continuer. C'est ainsi que vous et moi pouvons devenir de bons enseignants. Dieu a parlé à Josué alors qu'il était sur le point d'assumer cette tâche incroyable de suivre les traces de Moïse, qu'il était appelé à conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Cela n'allait pas être une partie de plaisir. Il allait falloir des miracles remarquables et une solide confiance en Dieu que Dieu seul pouvait aider Josué à avoir. C'est ainsi qu'au chapitre 1, il est dit, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Puis, encore une fois, la deuxième fois, verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi, pas seulement selon une partie, mais selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et puis, pour la troisième fois, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu n'est-il pas avec vous et moi, avec nous tous dans cette salle, où que nous allions, et avec le quartier général, avec M. Weston et toute l'équipe qui y travaille, pour nous soutenir, nous aider et nous encourager. Mais remarquez qu'il est dit, « La loi ne s'éloignera pas de ta bouche. » En lisant ce texte, un peu plus en profondeur, nous avons souvent envie de remuer les lèvres. Nous lisons peut-être à voix haute pour nous-mêmes ou à voix basse. C'est un peu le sens de l'hébreu ici. Vous prononcez les mots et vous les intégrez dans votre pensée. Une double approche, non seulement le lire et y penser dans l'esprit, mais aussi le dire à haute voix ou à voix basse pour soi-même. Cela permet de toujours l'avoir facilement à l'esprit. C'est comme un couple qui se fréquente. Les deux personnes doivent se souvenir des commandements de Dieu. Non seulement, souviens-toi du jour du sabbat, mais aussi, tu ne commettras pas d'adultère. Fuis la fornication. Vous profitez des sorties pour apprendre à connaître le sexe opposé, tout en se protégeant. Il faut avoir en tête cette détermination prudente de dire, nous allons faire des sorties en groupe. Nous n'allons pas nous retrouver seuls. Nous n'allons pas faire comme le reste du monde. Nous allons nous amuser. Et ce sera amusant le lendemain matin, et ce sera amusant la semaine suivante et le mois suivant. Et nous allons ainsi glorifier Dieu dans notre relation. Vous avez ingéré la parole de Dieu. Vous en avez fait une partie intégrante de vous-même. Vous y pensez, vous l'étudiez. Vous vous dites, pourquoi est-ce mal de commettre l'immoralité? Pourquoi est-ce mal? Parce que ça blesse beaucoup de gens, parce que ça ruine des vies. Par contre, en optant pour la voie divine, des années de bénédiction m'attendent. En gardant la voie divine dans cette partie de ma vie, des enfants seront éduqués et encouragés à la manière de Dieu. Pourquoi est-ce mal d'avoir un autre Dieu devant le vrai Dieu? On a un jour posé cette question à M. Armstrong. Quel est le plus grand commandement? Quel est le commandement le plus important? Dieu ne classe pas les péchés par catégorie, mais il y a des commandements qui sont les premiers et puis les seconds. Le premier commandement est le suivant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant le vrai Dieu et tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton corps et de tout ton être. Pourquoi? Telle était la question, M. Armstrong a dit, parce que le plus grand bien ne peut venir que du Père et de Jésus-Christ à ses côtés. C'est donc le plus grand bien. Si nous avons un autre Dieu, que peut faire cet autre Dieu? Absolument rien. Donc, si nous avons un autre Dieu devant le vrai Dieu, toutes ces bonnes choses que Dieu nous donnerait seraient supprimées. Nous n'aurions donc pas les bénédictions que nous désirons sincèrement, y compris, bien sûr, la vie éternelle. Il ne s'agit que d'une simple discussion entre nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur le premier commandement et vous commencez à réfléchir, vous commencez à étudier ce commandement, quelles sont ses répercussions dans l'avenir? Qu'en est-il de l'honneur rendu à son père et à sa mère? Vos jours se prolongeront sur la terre. C'est le premier commandement avec une promesse. La première génération du monde de demain va donc apprendre et vous leur enseignerez l'importance d'honorer leurs parents. Ainsi, cette génération aura un certain niveau de compréhension. Elle obéira à ce commandement et elle passera le relais à la génération suivante. Ils auront appris à leurs enfants à honorer leurs parents. À la troisième et quatrième génération du millénium, quelle sera l'ampleur de cette obéissance? Et les bénédictions de ce commandement, profondes, toute la société dans le monde entier. Imaginez qu'à mesure que les gens apprendront à honorer leurs parents et que les parents enseigneront la voie de Dieu, chaque génération suivante fera mieux et mieux et mieux encore en grandissant. Et cela se transmettra à la génération suivante. Vos jours se prolongeront sur la terre, bénis au-delà des mots, de ce que les mots peuvent dire. Nous sommes tellement bénis, frères, d'être dans l'Église, parce que nous pouvons transmettre ces mêmes principes à nos enfants, qui les enseigneront à leurs enfants. Chaque génération veut faire mieux, n'est-ce pas? Nous voulons tous transmettre quelque chose de plus, d'un peu mieux, leur donner un meilleur départ dans la vie. Et chaque génération, espérons-le, reprendra cela et l'enseignera également à ses enfants. Donc, nous apprenons. Et nous voyons ici que nous devons vraiment étudier plus que simplement lire. Si je vous disais, savez-vous où se trouvent les 10 commandements? Vous répondriez, bien sûr, Exode 20 et Deutéronome 5. Vous savez déjà. Qu'est-ce que signifie aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Pouvez-vous diviser votre cœur? Comment faire? Vous étudiez, vous y pensez, vous y réfléchissez. On pense à ce que le Christ a dit. Là où est ton trésor? Ah, maintenant nous entrons dans les détails. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mes frères, votre trésor est ici. Votre trésor est ici, à la fête de Dieu. Vous le chérissez plus que toute autre chose dans votre vie, et vous êtes ici. Cela en dit long. Dieu le voit. Il voit que vous voulez vous améliorer et grandir. Mais ce que je veux dire, c'est que vous creusez plus profondément, vous réfléchissez à ce que vous faites. Et plus vous le faites, plus Dieu dit qu'il vous donnera de la compréhension. Tous ceux qui observent ces commandements ont une bonne compréhension. Nos actions ont de l'importance. Un jour, nous étions en route vers le camp et nous nous sommes arrêtés. Le sabbat approchait. Le coucher du soleil n'était pas encore tout à fait là, mais nous nous sommes installés dans un motel avec un groupe d'enfants avec nous. Et de toute façon, nous sommes allés à... Eh bien, j'ai fait une erreur, d'accord. On apprend parfois en faisant des erreurs. Et j'ai fait une erreur en allant au restaurant Applebee's. C'était vraiment bruyant. Je ne recommanderais pas un restaurant aussi bruyant. Mais nous étions pressés et nous avons pris celui-là. Nous sommes donc allés à Applebee's. Il y avait des écrans de télévision et des événements sportifs. Juste au moment où le sabbat commençait, où le soleil se couchait et où nous avions commandé, la lutte sumo commençait sur grand écran. Un gros bonhomme en couche, vous savez, boum, boum, boum. C'était très difficile à garder l'esprit sur le sabbat. Je ne voulais même pas regarder la télévision. En tout cas, à partir de ce moment-là, j'ai dit, c'est la dernière fois que nous allons dans un restaurant bruyant et dérangeant. N'allez pas à ce genre de restaurant. Allez dans un endroit calme où vous pourrez fraterniser le jour du sabbat. Ne perdez pas Dieu de vue et faites ce qui est agréable à ses yeux. C'est un exemple où nous prenons certaines décisions en pensant qu'elles pourraient convenir, mais ensuite nous nous apercevons que cela ne fonctionne pas. Nous grandissons, nous comprenons, nous nous repentons d'avoir fait ce qui est mal et nous nous remettons sur la bonne voie. Que faire? Que faire quand vous étudiez? Vous demandez à Dieu de vous aider, de vous éclairer, de vous donner de la sagesse. Et quand vous demandez, vous faites ce que Dieu dit. Demandez, cherchez et frappez. Il y a une progression, une intensité plus grande à chaque étape. Chacune est un peu plus intense que la précédente. Vous commencez par demander, ensuite vous cherchez, puis vous frappez. C'est alors que vous progressez vraiment. Demandez, cherchez et frappez. C'est alors qu'on crie à Dieu pour avoir plus de sagesse. Vous savez, le Christ a dit que si vous demandez, et c'est une préoccupation dirigée vers les autres, vous demandez de la compréhension et de la sagesse pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Qu'y a-t-il de mal à cela, n'est-ce pas? C'est vraiment puissant. Il ne s'agit pas de s'occuper de soi, mais d'aider quelqu'un d'autre. Dieu vous le donnera. Il ne retiendra pas son Saint-Esprit de sagesse et d'intelligence. Je dis, essayez-le. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont fait, surtout si vous êtes des parents. Il vous est sans doute déjà arrivé de dire, « Au secours, j'ai besoin d'aide. Je ne connais pas la réponse à cette question. » Votre fille ou votre fils a peut-être posé une question alors qu'ils ne sont peut-être pas d'accord avec vous, ou qu'ils traversent une période de rébellion, nous nous posons des questions. Mais Dieu est en charge et nous aidera. Il a promis qu'il ne nous délaisserait jamais et qu'il ne nous abandonnerait jamais, et nous pouvons être forts et courageux. La partie que j'ai laissée de côté tout à l'heure au sujet de Josué, concernant le fait d'être fort et courageux, se retrouve plus tard dans l'histoire, lorsqu'il conquiert le pays de Canaan. Le pays de Canaan. Nous lisons qu'à un moment donné, au cours de cette bataille acharnée, il s'est levé tôt, il s'est mis au travail et il n'a pas perdu de temps, poursuivant une armée jusqu'au nord. Ils avaient rassemblé un fort contingent contre lui. Josué a crié à Dieu en disant, « Soleil, arrête-toi !» Et le soleil s'est figé au milieu du ciel. Ils ont pu terminer la bataille et compléter la victoire. Le long jour de Josué, c'est ainsi qu'on l'appelle communément. Mais d'où cela venait-il? L'Écriture ne dit nulle part. Si tu te trouves dans cette situation, tu peux dire au soleil de s'arrêter. Nulle part. Mais il avait confiance. Il s'était abreuvé de la parole de Dieu. Il était proche de Dieu. Et Dieu avait dit qu'il serait avec lui. L'Éternel a dit, « Sois fort, aie confiance, aie bon courage. » Au cœur de la bataille, Josué a dit, « Soleil, ne bouge plus. » Et il s'est arrêté. Cela me fait sourire. C'est tellement intéressant de voir comment Dieu travaille. Dieu a entendu cette prière parce que c'était comme une prière à Dieu et Dieu l'a soutenu. Josué a pu terminer cette bataille. Lorsque vous devez affronter une dure situation, quelqu'un refuse peut-être de vous laisser vous absenter du travail pour observer le sabbat et il vous dit « Je vais vous renvoyer de votre travail si vous quittez » ou quelque chose de ce genre. Soyez forts et courageux. Vous savez, plus nous sommes ici à la fête, croyez-le ou non, plus nous entendons la parole de Dieu, quelque chose fait que l'on devient plus fort dans la foi. Il se peut que vous soyez menacé au début de la fête, mais à la fin de la fête, vous direz probablement, « Eh bien, pour qui se prend mon employeur pour défier les enfants de Dieu, les enfants du Dieu vivant, qui veulent garder ses commandements? » Un patron n'est rien comparé au grand Dieu de l'univers. J'ai vu des gens un peu inquiets au début de la fête des tabernacles. Mais à la fin, ils flottaient littéralement, inspirés, confiants, soulagés, simplement impatients de faire face à n'importe quel obstacle qui se présenterait devant eux. Je me souviens d'un cas où un mari avait déposé les bagages de sa femme sous le porche et lui avait dit « Ne reviens pas ». Quand elle revint après la fête, il l'a accueillie à la porte, en disant, « Chérie, je suis heureux que tu sois de retour. Laisse-moi t'aider à porter les bagages. Tu es parti longtemps, tu m'as manqué. Cette bonne cuisine et tout le reste. » Vous voyez, Dieu lui a accordé sa faveur. C'est incroyable. Nous apprenons donc, frères, à enseigner par les choses que nous faisons, par les choses que nous vivons, par l'expérience de la voix de Dieu. Et Dieu nous aide à apprendre de ces choses. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Vous vous dites peut-être, oh wow, comment vais-je faire ça? Comment vais-je faire ça? Comment suis-je censé aimer ma femme? Un mari a décidé d'offrir un cadeau d'anniversaire à sa femme. Il lui a acheté un tracteur de jardin John Deere. Ça a eu l'effet d'un pétard mouillé. Il y a donc des choses qui ne marchent pas et il faut retourner à la planche à dessin. Chérie, qu'est-ce que l'amour d'après toi? Que puis-je faire pour que tu saches que c'est vraiment de l'amour? C'est une bonne question. J'aimerais entendre la réponse, n'est-ce pas? Vous voulez faire des choses que votre femme ressente vraiment votre amour et vice-versa. Il s'agit d'une écriture difficile, d'ailleurs. Dans la sermonnette, on a demandé « Quel genre d'écriture est difficile? » Eh bien, en voici une bonne. « Marie, aimez vos femmes. » Un autre passage difficile se trouve dans Matthieu 18. Matthieu 18. J'ai le mauvais verset. J'avais le mauvais chapitre. Matthieu 15, Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Le Christ a aussi dit, « Dépose ton offrande près de l'autel si quelqu'un a une dent contre toi. Votre prière sera inefficace si vous ne le faites pas. Si un mari et une femme ont des problèmes, cela va nuire à leur vie de prière et ils n'y parviendront pas. Alors, réconciliez-vous à la maison. Réconciliez-vous avec votre frère dans l'église. » C'est une écriture difficile. « Va vers ton frère. » Verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Troublé de cette déclaration de Jésus-Christ, Pierre demanda, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? » 7 fois. Jésus lui dit, « Jusqu'à 77 fois, 7 fois. » Même dans 1 Corinthiens, chapitre 6, nous lisons que nous devrions être prêts à souffrir, à être fraudés, si nécessaire. Ouch! Oui! Frauder. Cela signifie, frère, que nous devons être très proches de Dieu. Nous devons vraiment comprendre ce qui se passe ici. Le spirituel est plus important que toute perte physique. Nous devons nous concentrer sur ce qui est le mieux pour ce frère. Les circonstances peuvent faire qu'il n'est pas capable de voir la lumière et qu'il n'est pas capable de répondre. Il faut alors souffrir soi-même, être patient. Il comprendra en temps voulu. Mais parfois, il faut lui pardonner même s'il ne dit pas qu'il est désolé ou qu'il ne reconnaît pas sa faute. Nous devons être prêts à aller vers notre frère et à nous réconcilier sincèrement. « J'ai fait ça, M. Hall, » me disent-ils. « J'ai fait ça et ça ne marche pas. » « Combien de fois y êtes-vous allé? » « Eh bien, une seule. » « Alors, essayez 2 fois. » « D'accord, je vais y retourner. » Puis ils reviennent. « Ça n'a pas marché, M. Hall. Ça n'a pas marché. Comment l'avez-vous abordé? Je suis allé le voir et je lui ai dit que j'avais raison et qu'il avait tort. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on fait ou qu'on devrait faire. Il faut y aller humblement en reconnaissant que c'est peut-être vous qui avez tort. Eh bien, je n'ai pas tort. C'est bien là le problème, n'est-ce pas? » Nous devons nous rendre compte que nous pouvons faire partie du problème au même titre que la personne qui nous a marché sur les pieds. Il est donc bon, frère, de se plonger dans les détails de l'Écriture, non seulement de savoir où nous les trouvons, mais aussi d'en faire l'expérience. Se plonger dans la parole de Dieu et en faire l'expérience. Dans Hébreux 5, Hébreux 5 met vraiment l'accent sur ce point. Hébreux 5. Je sais que vous savez ce qui est écrit, mais à la fin du chapitre, l'apôtre Paul dit, au verset 13, « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Le lait de la parole de Dieu n'est que le tout début de la compréhension, lorsqu'une personne n'a pas encore expérimenté une grande partie de la parole de Dieu. Elle apprend, elle se développe. Elle est comme un enfant en bas âge. Elle commence à marcher en nouveauté de vie. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Lorsque vous traversez des tests, des épreuves, et que vous êtes dos au mur, vous ne pouvez pas avancer, reculer, aller de l'avant, vous êtes coincé. Vous devez attendre Dieu, vous devez lui ouvrir votre cœur dans une prière fervente. Avez-vous déjà traversé une telle épreuve où il n'y a pas de marge de manœuvre? Il n'y a qu'une seule solution, chercher Dieu. Une dame de Pittsburgh avait une fille qui avait de graves problèmes. On lui avait administré une trop grande dose de vaccin, ce qui avait affecté son cerveau. Cet enfant souffrait d'un grave handicap et a dû être placé dans une institution. Cette fille se grattait et se faisait mal. La mère a essayé d'appeler le pasteur, mais elle n'a pas pu le joindre. Elle a essayé de m'appeler, mais je n'étais pas en ville pour une visite ou autre, et elle n'a pas pu me joindre. C'était avant le iPhone, juste après que nous ayons quitté l'arche de Noé. De toute façon, elle n'a trouvé personne. Elle s'est donc interrogée, « Je me demande ce qu'il me dirait de faire. Il me dirait probablement de prier. » Elle a donc commencé à prier. Habituellement, on fait une prière normale, mais cette fois-ci, c'était grave. Elle répandait son cœur devant Dieu. Cela fait penser à Anna, lorsqu'elle a prié pour avoir un enfant. Elle a déversé son cœur sur Dieu. Elle pleurait et elle s'agitait pendant qu'elle parlait au Tout-Puissant. Cette femme a prié durant une heure entière. Non, elle a d'abord prié 15 minutes. Puis elle s'est levée, s'est lavé le visage et s'est remise à prier. Ce sentiment de lourdeur était toujours présent. Enfin, après une heure de prière, ce sentiment a disparu. Elle a réussi à s'en libérer. Dieu avait répondu à sa prière. Elle a appelé l'institution. Sa fille avait cessé de se gratter. Elle était plus calme. Les choses s'étaient améliorées dans une certaine mesure. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit que c'était une source d'inspiration et d'encouragement. Toute une leçon de foi. Nous devons rester à genoux. C'est une leçon, frères et sœurs, pour ce qui est de la capacité d'aider quelqu'un d'autre. Dans le monde de demain, les gens sortiront d'un environnement mondial en état de choc extrême. Ils seront comme cette dame dans l'église avec sa fille, s'interrogeant sur leurs enfants. Qu'est-il arrivé à nos enfants? Certaines nations israélites seront amenées en captivité et des familles seront séparées. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Ils auront besoin d'être encouragés, ils auront besoin de quelqu'un pour les écouter. Ils crieront au secours, apprenant aussi à être totalement fervents dans leur prière. L'encouragement sera peut-être de leur dire, « Avez-vous prié à ce sujet? Pendant combien de temps? Avez-vous abandonné? » Dieu dit, « Priez sans cesse. » Et là encore, il y a une leçon à tirer pour nous. Non seulement cela renforcera notre foi, mais nous pourrons l'enseigner dans le monde de demain. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire ici, ou que je pourrais dire. Mais nous savons que nous avons le plus grand exemple qui soit, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous serons ressuscités dans la famille de Dieu et nous nous verrons confier de grandes responsabilités. Même si vous n'aviez que deux personnes à servir au début, un mari et sa femme, et que c'était tout ce qu'on vous donnait, et qu'ils aient 6 enfants, je prends le chiffre 6, mais peut-être que c'est 7 ou 8. Il y aura de grandes familles dans le monde de demain. Et ces enfants se marieront et auront des enfants à leur tour. Vous leur enseignerez, vous les aiderez, vous les encouragerez. Ce couple avec lequel vous aurez commencé, et qui vaudra sans doute plus tard, dans le temps, à 2 villes ou plus. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle dans les grandes. J'ai fait le calcul, je ne suis pas un mathématicien, mais en multipliant et en divisant et en tenant compte du fait qu'après une centaine d'années, les nouvelles générations apparaissent et se succèdent au cours du millénium. 500 ans après le début du millénium, la population dont vous serez responsable pourrait atteindre des millions de personnes. Pensez-y, vous serez responsable de millions de personnes. J'aimerais bien savoir combien exactement cela pourra être, mais vous savez, on ne peut pas voir précisément quelle pourrait être la possibilité. Quel que soit le chiffre que nous trouvons, ce sera certainement inférieur à la réalité. Vous allez être occupé. Et ce sera une grande et merveilleuse bénédiction d'être occupé, d'être impliqué à temps plein, complètement impliqué pour aider les autres et pour vous assurer de leur appel et de leur élection. Vous aurez été transformé en un être spirituel. 1 Corinthiens 15 montre que vous allez ressembler à Jésus-Christ. Son visage brille comme le soleil, dans toute sa force. Vous serez comme les étoiles. Et ceux qui enseignent et ceux qui encouragent les gens dans la justice brilleront comme le soleil dans toute sa force. Vos capacités, vos pouvoirs seront multipliés et amplifiés de façon exponentielle, au-delà de tout ce que les humains ont. Vous savez, Einstein sera ressuscité lors du jugement du grand trône blanc. Il regardera autour et dira, « Nous étions des idiots, nous étions fous. Nous découvrons maintenant l'intelligence de la voix de Dieu qui dépasse de loin tout quotient intellectuel humain. Vos pouvoirs seront multipliés. Votre mémoire, vous n'aurez plus à vous soucier d'oublier quoi que ce soit. Vous serez imprégné de la puissance et de la gloire de Dieu. » Les caractéristiques et les capacités de la famille de Dieu se manifesteront, comme la prophétie le montre clairement. Nous enseignerons et nous encouragerons les autres. Nous serons rois et sacrificateurs. Vous pourrez dire à quelqu'un, « Voici le chemin, marchez-y. » C'est la voie à suivre. C'est le principe général, mais vous serez en mesure d'aller plus loin et de l'expliquer. Les gens l'apprécieront vraiment. Peut-être que vous vous assiérez avec eux et que vous mangerez du poulet ou du poisson, comme le Christ l'a fait avec les disciples. La terre sera finalement remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Remarquez enfin ceci dans Philippiens 1. Philippiens chapitre 1. Au verset 6, il est dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, frère, continuez à faire du bon travail. Continuez à vous entraîner, à vous préparer à devenir des enseignants.